On va accueillir Jean-Jacques avec grand plaisir. Merci. Seigneur, on te bénit pour Jean-Jacques, pour ce qu'il a, ce que tu as déposé sur son cœur. Et on veut ouvrir nos cœurs à ta parole. Jean-Jacques, sois béni. Au nom de Jésus.
Voilà. Bonjour à chacun. Rebonjour. Je vais commencer cette prédication en vous donnant des anecdotes, une anecdote sur ma vie et qui, je pense, a été celle que vous avez vécue. On trouve dans certains magasins ou dans certaines gares des escaliers roulants. On appelle ça des escalators. C'est toujours très intéressant, et je ne sais pas si vous, mais en tout cas moi, dans mon enfance, je l'ai fait. Je m'amusais à les monter en contresens. Et j'étais fier d'arriver en haut, c'était un véritable exploit pour moi, et je les descendais en héros. J'avais réussi à faire un exploit. Et je vous avoue, ça c'est le moment confession, qu'il m'arrive encore quand personne ne les monte, de les descendre ou de les monter. Et je suis toujours amusé à faire ce petit jeu qui comporte un enjeu intéressant. Si je m'arrête avant d'arriver au bout, eh bien je reviens au point de départ. Si je stoppe mes efforts, je perds tout ce que j'ai fait. Et ça ne vaut pas la peine. Le fun n'est plus là. C'est la même chose quand on nage. Avez-vous déjà essayé de nager à contre-courant? La rivière, la mer sont des éléments importants et on peut finalement nager à contre-courant. Et puis on se rend compte que ces éléments ne sont pas du tout intéressés ou étonnés ou même impressionnés par les efforts qu'on fait. Dès qu'on arrête, on recule. Et c'est vrai qu'on n'arrivera jamais à atteindre notre but si on s'arrête en chemin. Et malgré toute la peine qu'on s'est donnée, malgré toute l'énergie fournie, malgré toute la détermination que nous avions au départ, le courant va anéantir notre avance et va nous emporter à notre point de départ. Et c'est quand même quelque chose de frustrant. C'est même rageant un petit peu. Il y a un proverbe contemporain, hein, pas biblique, qui trouve ici toute sa place. Celui qui n'avance pas, ben, vous le connaissez, celui qui n'avance pas recule. Et donc tous les acquis qu'il a patiemment étalonnés ben, sont perdus. On trouve dans la parole de Dieu cette même réalité. Je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 pour y trouver une lettre que Jean a écrite à l'église de Philadelphie. Alors on ne va pas tout lire la lettre, mais Philadelphie c'est une bonne église. Elle est fidèle, elle est persévérante, malgré les difficultés qu'elle a, mais finalement, on se rend compte qu'elle a peu de résultats, malgré sa fidélité. Et puis, c'est une église qui marche aussi à contre-courant, comme toutes les églises, comme tous les chrétiens, par rapport au monde que nous pouvons vivre, et qui reste attachée à son Seigneur. Donc, c'est une église dans l'escalador, c'est une église dans la rivière. Et dans cette lettre, au verset 11, deux versets vont retenir toute notre attention. Vous les voyez écrits sur l'écran. « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. » Et là, je dirais moi « Amen » afin que personne ne prenne ta couronne. J'aimerais vraiment situer le contexte. Les chrétiens de l'église de Philadelphie passent par des difficultés et pourtant ils restent fidèles et ils persévèrent malgré toutes ces épreuves qu'ils peuvent traverser. Et Jésus va leur dire deux vérités fondamentales. D'abord, il va leur dire « Je viens bientôt ». Et c'est vraiment un encouragement. Ce n'est pas une simple parole pour commencer une autre parole, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut regarder à Jésus et non aux circonstances. Et c'est ce que nous pouvons comprendre aussi dans l'exemple que Jésus va nous donner dans cette église de Philadelphie. Il reviendra nous prendre là où il n'y aura plus de larmes, là où il n'y aura plus de deuil, là où la paix va régner, plus de combats, plus de souffrances. Il vient bientôt. Finalement, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout parce que la récompense sera grande. Et cet encouragement aurait pu suffire, aurait dû suffire peut-être à relever la foi des chrétiens et puis à les porter comme ça dans leur vie chrétienne. Mais on se rend compte ici que Jésus veut vraiment les encourager à regarder à lui, comme il veut aussi nous encourager aujourd'hui à regarder à lui. D'autant plus que pour eux, des souffrances conséquentes sont encore à venir. Et Jésus leur dit qu'elles seront encore plus terribles que celles qu'ils sont en train de vivre. Bonjour la gaieté. Et en d'autres termes, Jésus leur dit, vous allez continuer à nager à contre-courant et le courant sera plus fort. Mais Jésus leur dit aussi dans ce même passage, je te garderai moi aussi au jour de l'épreuve qui va venir sur les habitants du monde entier pour éprouver ses habitants. Et c'est une belle espérance, en sachant que même si c'est difficile, eh bien Jésus nous promet de pouvoir être victorieux, et ça, ça vaut toutes les peines du monde. Et ensuite, cette deuxième parole que Jésus leur dit, c'est tout le propos de cette matinée, « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Jésus leur dit, et il nous dit aujourd'hui, que nous sommes appelés à tenir ferme, à ne pas nous reposer sur nos acquis au risque de perdre notre couronne. Alors c'est un avertissement. Et en ce temps de jeûne fédéral, un temps où on regarde un petit peu notre vie, on se remet en question, on s'humilie aussi pour ce que nous faisons ou ne faisons pas, eh bien c'est peut-être intéressant de considérer ce passage sous ce regard. À cette époque, qu'est-ce qu'était une couronne ? Eh bien, ce n'était pas le signe de la royauté que le roi Charles III a enfin pu mettre sur sa tête. La couronne était une couronne de laurier qui récompensait les meilleurs athlètes. Et la personne dans la Grèce était considérée comme un héros, comme un modèle pour les habitants de son village, qui l'exemptait d'impôts, qui lui faisait plein de choses. C'était vraiment le chef du village, finalement. Et comme modèle, il devait tout le temps être en pleine forme. Il devait tout le temps être au sommet de ses exploits sportifs. Mais s'il arrêtait son entraînement parce qu'il était satisfait de ses résultats, alors ses performances commençaient à baisser et il était plus digne de garder cette couronne. Et on la lui retirait. L'expression « se reposer sur ses lauriers » vient de là. C'est un athlète qui se croyait arrivé au sommet de sa carrière et qui ne faisait plus aucun effort pour se maintenir ou pour progresser. Est-ce que nous nous reposons sur nos lauriers chrétiens ? Et on comprend mieux ce que Jésus dit à cette église, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible pour eux, cette histoire de couronne. Et Jésus leur dira que personne ne prenne ta couronne. Si tu commences à baisser les bras et à cesser de prier, à cesser de rester vigilant dans ta vie chrétienne, à cesser de développer ta foi chrétienne, alors c'est comme si tu étais engagé dans un combat à contre-courant et que tu vas commencer à reculer. Dans notre jargon chrétien, on dirait rétrograder, perdre l'avantage, et finalement, on ne le souhaite pas, mais c'est aussi ce que dit cette histoire, être disqualifié. Et vous pourriez me dire à juste raison que ce passage que nous venons de lire se trouve dans l'Apocalypse, et que l'Apocalypse, ce n'est pas encore maintenant, c'est un temps qui concerne les temps à venir, et que finalement, je vous fais un petit peu peur pour rien. Et vous auriez raison de le relever, parce qu'effectivement, c'est un texte qui nous parle des temps futurs. Alors, pour équilibrer la chose, je vous propose de lire un texte, un autre texte, où la Bible va dire la même chose, mais c'est déjà passé. Je vous propose de lire en 1 Thessaloniciens 3, les 5 premiers versets. 1 Thessaloniciens 3, les 5 premiers versets. Aussi, n'y tenons plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes, car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Peut-être que si j'avais lu cette phrase il y a longtemps, ben j'aurais peut-être réfléchi avant de signer. Parce que si c'est seulement aux persécutions que nous sommes destinés, eh ben ce n'est pas réjouissant. Mais le texte continue en disant « Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi n'y tenons plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. » Et on voit tout de suite les parallèles entre les deux textes. Paul et Timothée sont concernés par ces chrétiens de Thessalonique, ceux qui ont créé l'Église. Et ceux-ci progressaient dans la foi jusqu'au moment où le diable est venu les tenter par des tribulations. Et le but de ces tribulations, ce n'était pas de les faire mourir, ce n'était pas de les mutiler, ce n'était pas de les envoyer en prison. Le but de ces tentations, de ces tribulations, c'était de leur faire baisser les bras, de cesser de nager à contre-courant, de perdre leur position dans la foi. L'église de Thessalonique était une toute jeune église et le risque était effectivement grand que le travail missionnaire de Paul et de Timothée soit réduit à néant. Paul se faisait vraiment du souci pour eux et ils vont envoyer Timothée pour fortifier ces chrétiens, pour les affermir, afin qu'ils tiennent ferme ce qu'ils ont reçu. Le même danger existe encore et toujours aujourd'hui dans notre vie personnelle, dans notre couple, dans notre famille, dans notre Église. Que nous voulions ou non, si nous cessons d'être fermes, si nous baissons les bras dans notre vie de prière ou dans notre vie chrétienne ou dans le façonnage de notre caractère, tout ce que nous avons fait peut être réduit à néant. Même si ce que nous avons fait jusqu'alors était parfait et dans le plan de Dieu, si je m'arrête, je commence à reculer. Et en lisant ce passage de 1 Thessaloniciens, j'ai réalisé que les chrétiens avaient besoin qu'on leur dise « tenez ferme ». Ça peut peut-être sembler bizarre, mais c'est pourtant dans le plan de Dieu pour l'Église que des hommes et des femmes se lèvent pour nous encourager à tenir ferme. Et Jésus, le premier, a demandé à Pierre d'affermir les autres disciples. On trouve cette remarque de Jésus dans Luc 22, quand il dira « Mais j'ai prié pour toi, il parlera à Pierre, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu te seras converti, affermis tes frères. » Il y a une dimension où on a un rôle d'aller vers son prochain et de lui dire « Sois ferme ». Et dans l'Apocalypse, c'est bien Jésus qui encourage les chrétiens de l'Église à tenir ferme. Jésus a encouragé les chrétiens à tenir ferme. Paul et Timothée ont encouragé d'autres chrétiens à tenir ferme. Au travers de cette prédication, je vous encourage ce matin à tenir ferme. Et vous aussi, vous êtes encouragés à me dire, sois ferme, vous avez lu ma prédication, ou un autre membre de l'Église ou de votre entourage, si vous voyez que sa foi chancelle, si vous voyez qu'il a cessé de nager, qu'il a cessé de vivre la vie que Jésus voulait qu'il ait. Et une telle parole, sois ferme, est vraiment porteuse de vie, porteuse d'espérance, mais aussi c'est aussi un certain retour à une conformité que nous avions avant et que nous avons peut-être perdue. Et c'est important que nous puissions le vivre. Encourager son frère, sa sœur à tenir ferme, c'est un acte d'amour. Ça montre que nous sommes unis, que nous avons besoin des uns des autres et que la vie spirituelle de mon prochain, de mon frère, de ma sœur, me concerne aussi. Est-ce que vous encouragez les gens à tenir ferme? Ou est-ce que vous leur dites, ben ça c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, moi je vis la mienne, et puis alléluia. Il y a une redevabilité entre chrétiens, et Jésus nous le montre en nous encourageant, en tout cas en encourageant l'église de Philadelphie à tenir ferme. On a de la chance, parce que ce qui s'est passé à Thessalonique, la suite de ce chapitre nous l'explique. En effet, cette suite montre que Paul a vraiment eu raison de s'inquiéter et il a aussi eu raison d'envoyer Paul avec cette exhortation à tenir ferme. Et si je lis avec vous quelques versets qui suivent ces cinq premiers versets de 1 Thessaloniciens 3, il nous est dit « Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous » donc il revient vers Paul « et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour. » En fait, ce que Paul avait suspecté, que les chrétiens commençaient à baisser les bras, c'était vrai. Et l'encouragement à tenir ferme, à porter ses fruits. Et tout de suite après, Timothée va revenir en disant, « Ça y est, ils ont compris, ils sont fermes. » Et puis, Paul dira au verset 8, ce verset moi qui me touche beaucoup, il dira, « Maintenant, nous vivons. » Puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. C'est comme s'il était tellement angoissé par la condition spirituelle de ces chrétiens qu'il n'arrivait plus à vivre normalement, qu'il était mais perturbé, qu'il disait « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces chrétiens comprennent la vie que Jésus veut leur donner et qu'ils puissent tenir ferme dans leur position ?» Et voilà qu'il dira avec joie maintenant, je peux vivre. Maintenant, je peux aller de l'avant. Maintenant, je peux me concentrer sur d'autres choses parce que ce qui faisait tout le sujet de mon attention, la vie spirituelle des Thessaloniciens, c'est maintenant quelque chose de résolu. Ils tiennent ferme. Et c'est vrai qu'en lisant ce texte, j'ai réalisé que Paul était vraiment inquiet, et son inquiétude a été transformée en grande joie. Et j'aime ces Thessaloniciens, c'est une toute jeune église. Paul, il a créé cette église en 3 week-ends, donc en 2 semaines. L'église a été fondée, et puis après il est parti ailleurs. Donc il les a peut-être un petit peu laissés trop tôt. Ils étaient encore un petit peu bébés spirituels, mais je ne pense pas qu'ils étaient oubliés pour autant. Mais ils avaient besoin qu'on les encourage. Ils avaient besoin qu'on leur dise ce qu'il fallait faire. Et en ce faisant, ils ont reçu le message de Timothée et ils se sont remis en route. Toute l'Église s'est remise en route. Ils ont repris leur marche à contre-courant. Et ils ont retrouvé la constance qu'ils avaient perdue. Et tenir ferme, c'est retrouver la constance qui nous manquait. Et pour eux, comme pour nous, la parole de Dieu pour que Dieu veut nous adresser, c'est « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne ». Et dans ce texte, il y a un point positif, c'est que notre couronne, on l'a toujours. Yes. Mais fais attention. Parce que si tu si tu t'éloignes, si tu perds pied, un jour tu risques de la perdre. Mais tu l'as toujours. L'exhortation de Jésus aux chrétiens de Philadelphie était celle-ci. Tu as toujours ta couronne. Reviens à moi. Reviens à moi. Sois ferme. Alors, c'est vrai qu'on va donner de telles paroles à quelqu'un qui chancelle dans sa foi, dans ses convictions, ou qui risque de chanceler, ou dans l'expression de sa foi. Et puis, ce matin, ça sera finalement très simple, parce que Dieu, il m'a donné qu'une parole. C'est celle-ci, c'est « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et j'aimerais faire une sorte d'appel. L'appel de Jésus aux chrétiens de Philadelphie, l'appel de Paul et de Timothée aux chrétiens de Thessalonique, l'appel de Jésus à l'église de l'Escale, un appel pour ceux et celles qui ont baissé les bras dans tel domaine de leur vie, qui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre quelque chose, qu'ils savent que ça ne fonctionne pas bien. Puis comme ils se reposent sur leur laurier, ils laissent les choses passer. Et ils perdent leur fermeté de chrétien, de chrétienne. Mais ce n'est pas un appel à venir au Seigneur afin de recevoir une onction spéciale ou une bénédiction particulière dans laquelle je suis un vase que Jésus va remplir. Ce n'est pas Jésus qui va m'affermir. On l'aimerait, on le veut toujours. On aimerait que nous, on soit presque spectateurs de notre vie et que Jésus fasse tout. Qu'il nous bénisse, qu'il nous guérisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous affermisse. Ce n'est pas le propos de Jésus. Jésus, il ne vient pas pour nous affermir ce matin. Jésus, il vient pour nous dire, sois ferme. Pour nous dire que le travail, c'est nous qui devons le faire. Et ce n'est pas lui qui va le faire à notre place. Et un appel donc à venir au Seigneur afin d'attester que je reprends le chemin de la sanctification à partir d'aujourd'hui. Je vais tenir ferme. Je vais honorer le Seigneur. Et voyez-vous, c'est tellement facile de se reposer en Dieu en disant « Seigneur, fais tout, affermis-moi, donne-moi tout ce que j'ai besoin, alléluia, j'attends. » Alors que le message de Dieu est « Lève-toi, reprends ta marche sur cet escalier qui va à contre-courant. Reprends ta nage, sois fort, bats-toi, entre dans le combat d'une façon quotidienne. » Et puis je vais vous proposer de baisser les yeux et puis de vous laisser un petit peu interpeller par des choses que je vais vous dire. Et puis à la fin, je vous demanderai si vous êtes concerné de vous lever. On ne va pas s'avancer, mais on va simplement se lever en disant « Seigneur, tu es en train de me toucher dans un point de ma vie où j'ai perdu pied, où je me suis reposé sur mes lauriers. Aujourd'hui, je comprends ta parole. Sois ferme et je veux retrouver cette fermeté dans ma vie. » Amen. Alors, inclinons notre tête, fermons les yeux peut-être. Tu t'es éloigné de la foi et tu viens de moins en moins au culte vivre cette communion fraternelle. La parole de Jésus pour aujourd'hui, c'est « Tiens ferme ce que tu as. Tiens ferme ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. » Tu as cessé d'avoir un culte personnel régulier depuis longtemps, et ton ancien caractère reprend le dessus. Tout le monde le voit. Tiens ferme ce que tu as, ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu lis la Bible de moins en moins sans que cela soit un problème pour toi. Parole de Dieu pour aujourd'hui, c'est « Tiens ferme ce que tu as, retrouve ce qui faisait ta force d'autrefois, afin que personne ne prenne ta couronne. » Tu es satisfait de ta vie spirituelle et tu désires plus grandir. Tu dis « Mais moi je suis arrivé tellement loin déjà, ça c'est bon pour moi. » Tu es en train de reculer. Tiens ferme ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. Ta vie de couple n'est plus ce qu'elle était, et les conflits ou les moments d'indifférence sont de plus en plus fréquents. Tu es en train de reculer, tu es en train d'être happé par ce courant contraire. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça fait longtemps que tu pries pour un sujet, et tu ne vois pas la réponse de Dieu encore. Et tu es découragé. Tu dis, mais à quoi bon continuer? Tiens ferme ce que tu as, continue à prier, afin que personne ne prenne ta couronne. Ou tu en as marre de te battre contre un péché qui revient tout le temps. Et tu dis, mais à quoi bon? Et là encore, tu baisses les bras. La parole de Dieu dit, tiens ferme, reprends courage. Tiens ferme ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. Et puis en fait, il y aura tellement encore d'autres possibilités de dire des choses qui ne vont pas bien de notre vie. Puis on pourrait dire ceci à Jésus, Seigneur Jésus, je suis découragé par la situation dans laquelle je vis. Mais ce matin, je refuse la fatalité. Ce matin, je refuse les découragements. Et Jésus, je tiens ferme ce que j'ai reçu de toi. Et je n'ai plus envie de gâcher ma vie en train de perdre cette couronne que tu m'as donnée. Je vais la garder. Je vais tenir ferme. Je m'engage ce matin à tenir ferme dans la situation difficile dans laquelle je vis. Amen. Si c'est votre prière, bien, je vous propose de vous lever simplement et puis de dire, ben, j'ai besoin, Seigneur, de quelque chose de nouveau. J'ai besoin que tu me parles et tu m'as parlé ce matin. Et je veux te dire que je veux tenir ferme. C'est ma prière ce matin. Alors que nous nous sommes levés, je vous propose simplement, sans dire pourquoi, mais d'élever la voix, de dire Seigneur, je veux tenir ferme. Et que ce soit vous la première personne qui entendiez ce que vous dites, mais que Jésus soit aussi là pour l'entendre, que les frères et sœurs sont là aussi pour vous encourager, que l'ennemi entende qu'il a perdu et qu'il doit fuir l'un de nous. Et nous voulons vraiment dire à Jésus ce matin, je tiens ferme. Et je vous propose de le dire les uns les autres alors que vous êtes levés. Alléluia. Comme un parfum de bonne odeur pour Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, tu es un Dieu sérieux. Et la parole que tu as adressée à l'église de Laodicée, tu nous l'adresses aussi aujourd'hui. Dis voilà, je te connais. Tu n'as pas beaucoup de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu étais fidèle. Mais tu vacilles, tu t'endors. Tu te reposes sur toi-même. Et je te dis aujourd'hui, tiens ferme ce que tu as. Et ce matin, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église, nous osons relever la tête et nous osons dire, Seigneur, d'une voix remplie d'assurance, de fermeté, d'amour et d'autorité, Seigneur, je tiens ferme. Et quel privilège c'est de pouvoir te le dire, Seigneur. Pas des paroles comme une prière apprise par cœur, mais comme une réalité de notre cœur qui touche le tien et qui voit que ton œuvre dans nos vies n'est pas finie, que tu as encore des choses à nous dire, à nous montrer, que le chemin jusqu'au bout de l'escalator n'est pas fini, le chemin jusqu'au bout de la rivière n'est pas terminé, qu'il y a encore de l'espérance pour chacun de nous. Et nous voulons garder cette couronne que tu nous as donnée, qui représente tellement de choses pour nous, des choses différentes. Mais nous te remercions de ce que ce matin, nous pouvons repartir avec un nouvel objectif de notre vie, un nouvel horizon qui est devant nous. Et cet horizon, c'est un horizon d'espérance, c'est un horizon de foi renouvelée, c'est un horizon d'encouragement, parce que nous tenons ferme. Amen. J'aimerais terminer, merci, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais terminer par un dernier verset que nous trouvons dans l'évangile, dans l'épître de Pierre, sa deuxième épître au chapitre 3. Si on pouvait tourner ce slide. Voilà, vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus. Vraiment, on vit des temps bibliques, puisqu'on est tous prévenus. Soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.